France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir le langage des jeunes, un langage qui nous amuse, qui nous dépasse souvent, qui nous agace parfois. Il faut dire que les ados font tout pour brouiller les pistes à l'oral, mais aussi à l'écrit désormais, avec les SMS, les Snap et autres Insta directs. Alors, si vous vous arrachez les cheveux devant un texto signé TKTMDR ou qu'au contraire, vous adorez textoter de cette façon, appelez-nous, car ce soir, tout est permis. Nous avons à nos côtés des experts en déchiffrage. Notre ami Alain Rey, conseiller éditorial aux éditions Le Robert, il est resté avec nous. Notre sémiologue Mariette Darigrand, dont le dernier ouvrage s'intitule Sexy Corpus. Et Rachid Santaki, auteur de La légende du 9-3. Rachid Santaki, qui est aussi un des organisateurs de la fameuse dictée des cités. Pour les interpeller, franceinter.fr ou Twitter avec le mot-clé Telson. Vous avez aussi le bon vieux téléphone 01 45 24 7000. Petite précision, vous nous appelez quel que soit votre âge.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Mes enfants sont encore petits, mais je vois ceux des autres, eh bien, ils parlent un langage que leurs parents ne connaissent pas. D'abord parce que maintenant, on fait des études beaucoup plus poussées, en général, en règle générale. Les parents ont eu peut-être moins de possibilités. Le langage n'est pas du tout le même.
Et alors, même le langage courant.
Mais oui, bien le langage courant, le langage en général.
J'ai travaillé, j'ai fait tout un devoir et j'apprends que la prof n'est pas là. J'ai le seum, S-E-U-M. On peut très bien dire, je suis dégoûtée, j'ai le seum, c'est plus rapide à dire. À Skip, la prof de maths, elle est pas là demain. J'ai taffé pour R, c'était une disquette. T'as vu, le mec là, c'est trop une frappe, ou je sais pas, des choses comme ça. C'est-à-dire, en fait, il est grave beau. Des fois, c'est pratique d'ailleurs, quand on est. Il y a ma copine à côté, puis qu'il y a mes parents.
Tes parents, ils ne comprendraient rien.
Ah oui, ils comprendraient strictement rien. Puis ça change hyper vite, enfin, je veux dire, on ne dit pas les mêmes mots cette année qu'on dit l'année dernière. Je suis saucée, j'ai kiffé être interviewée par France Inter.
Saucée.
Je suis trop saucée, c'est trop bien, je suis trop contente.
Alain Rey. On entendait des parents qui se plaignaient, ça c'était des archives de l'INA en 1973. Ils s'inquiétaient de ne rien comprendre à ce que disaient leurs enfants. Ça veut dire quoi, le phénomène n'est pas nouveau ?
Non, bien sûr, le phénomène n'est pas nouveau. Les enfants ont toujours eu leur jargon privilégié. Il se trouve que là, depuis la fin de la guerre de 40, c'est-à-dire à partir des années 50, il s'est un petit peu réalisé dans un milieu social spécifique qu'on a appelé pour abréger les banlieues. Et quand on a parlé des jeunes de banlieue, j'ai tout de suite fait remarquer que langage des jeunes, c'était vite dit parce que les jeunes étaient comme nous, ils vieillissaient et que rapidement, ça n'en était plus. Et que d'autre part, les banlieues n'étaient pas un phénomène clos et que justement, c'était par les cours d'école que ce vocabulaire dont il vient d'être question va se répandre et va devenir très rapidement une partie du langage français familier de France parce que ça n'est pas le même que celui des jeunes du Québec ou des jeunes même de Belgique ou de Suisse qui n'ont pas tout à fait les mêmes références. En outre, il y a des différences intérieures et qui est que le langage des jeunes à Paris n'est pas celui de Marseille. Il n'y a qu'à les écouter pour l'entendre, que ce soit phonétiquement, que ce soit au point de vue du vocabulaire. Et toutes les remarques que font les jeunes sur leur langage et qui les amusent parce que ça trouble les parents et c'est fait pour ça, ça s'appelle un argot. Un argot est fait pour communiquer entre soi et pour que l'extérieur, le monde extérieur, n'ait pas connaissance de ce qu'on dit. Il y a eu des argots de métier, le fameux louche et bême des bouchers, qui en présence de leurs clients pouvaient dire des horreurs sur ce qu'ils vendaient sans que personne s'en aperçoive. Les enfants font un peu la même chose avec leurs parents, ils les foutent dans un ghetto pour se venger d'avoir été mis dans un autre ghetto qui est celui de l'école après celui de la cité, de la banlieue ou du quartier, suivant le vocabulaire qui a évolué très très vite. Donc je pense que moi je pense, pour résumer en une formule, que ce langage est un enrichissement pour la langue française, même si c'est un enrichissement désordonné.
Rachid Santaki, vous approuvez ?
Oui, en fait, c'est un moyen, ce que je dis souvent. Quand j'interviens dans des établissements scolaires, la première question, c'est qui écoute du rap ? Parce que le rap, c'est un vecteur, en fait. Ouais, c'est énorme. Ce que vous disiez tout à l'heure, la cour d'école, la cour de récré ou la cour de l'établissement scolaire. Et le rap, en fait, c'est un vecteur. Puisqu'il permet de populariser les nouveaux mots et de les diffuser. Donc, question, qui écoute du rap ? Pratiquement toute la classe jeune, justement, lève la main. Et ensuite, on arrive sur les registres des langages et savoir si leur langue est bonne ou mauvaise d'après eux. Donc, ils vont me dire mauvaise parce qu'en fait, c'est entre eux. Et j'explique juste que c'est un Sont des codes, juste sortir de ces registres pour aller à un entretien, pour un stage. Par contre, la force, et je leur donne un exemple que j'ai déjà travaillé pour des publicitaires, pour justement traduire ce langage ou le remettre dans le contexte. Donc il a une valeur, et surtout leur force, c'est qu'ils font vivre cette langue. Donc ça donne une autre dimension, un relief à cette langue française. Après, évidemment, la difficulté, celle-là, c'est ce qu'il faut souligner, c'est de ne pas rester, pas se ghettoiser ou s'isoler dans ces codes, dans cette langue, comme vous le disiez très bien tout à l'heure.
Alors, oui, mais de toute façon, il n'y a aucun jeune, à ma connaissance, j'en ai jamais entendu, qui ait une densité de ce vocabulaire par rapport au vocabulaire commun qui soit telle qu'il n'y ait plus rien à côté. Ils ont le moyen d'avoir une interface avec les autres, pas des mots de tous les jours, que là, bon, je ne sais pas, les pronoms, toute la matière grammaticale, plus ou moins bien traitée, mais elle est toujours présente. Et les mots les plus fréquents de la langue française, le verbe tenir, le verbe garder, le verbe courir, ils restent là. Mais évidemment, c'est coloré par quelque chose qui est d'ailleurs pas du tout renouvelé d'année en année, comme ça vient d'être dit. C'est leur sentiment. Pour eux, un an, c'est très important. Ils sont de la classe d'après, donc ceux qui ont un an de moins sont des nuls, c'est des bolos, et il faut les éliminer. Quand je dis bolos, je suis déjà en retard.
Vous êtes déjà un peu ringard, excusez-moi. Complètement dépassé, effectivement.
Mais avant, il y avait d'autres mots qui sont encore plus ringards, et il arrivera un moment où le mot le plus ringard qui a 10 ans ou 15 ans va redevenir à la mode. Donc, se méfier de ces classements, parce que ça bouge incroyablement vite, et c'est cette espèce de tourbillon qui fait que le discours est extrêmement vivant.
Un petit mot, Mariette Darigrand, avant qu'on parte au stand à retrouver Paul, parce que Rachid Santaki disait il y a un instant, il parlait du rap, de l'influence du rap, l'influence des séries télé aussi.
Oui, c'est ça, je crois que les jeunes aujourd'hui sont des grands consommateurs de signes, de langage de toute façon, donc ils mélangent tout, ils mélangent ce qu'ils entendent, ils sont dans un bain sonore, ils ont leur casque sur la tête, ils écoutent de la musique, ils regardent, ils font leur devoir avec la télé allumée, ils sont sans arrêt sur connectés, etc. Donc ils sont dans ce bain et tout se mélange dedans, il y a les mots venus de la banlieue mais qui se retrouvent en centre-ville aujourd'hui, c'est très amusant de voir comment, sur la tête de ma mère, se retrouve dans le 7e arrondissement. Ils font tout avec, je crois. Ils sont très composites.
Alors, comme promis, on part au standard de France Inter. C'est Paul qui nous appelle de Rouen. Bonsoir, Paul. Bienvenue sur l'antenne.
Bonsoir, merci beaucoup. Et félicitations pour vos émissions de grande qualité. Moi, je suis dans l'éducation nationale depuis 4 ans. D'abord en tant que surveillant dans une banlieue plutôt aisée, et maintenant en tant qu'enseignant banlieue parisienne, moi je constate quand même, malgré ce qu'a dit l'intervenante précédente, qu'il y a quand même plusieurs langages assez distincts entre ces zones. On va avoir plutôt un langage dans les banlieues favorisées qui va plutôt être issu d'emprunts linguistiques liés aux anglicismes qui ont sans doute été vu dans les séries et finalement qui résonnent aujourd'hui dans la société puisque de plus en plus de personnes les utilisent. Notamment dans le monde du travail, tandis que dans les banlieues plus défavorisées, comme dans la banlieue parisienne, on va avoir des mots qui peuvent être issus parfois aussi de leur patrimoine culturel. Ça peut être des mots qui viennent d'Afrique, qui peuvent venir de la langue arabe, ou même d'un langage banlieusard, d'un argot banlieusard. Et lui va être plus méprisé. Et alors ma question, c'est dans quelle mesure n'y a-t-il pas un effet de domination dans le mépris existant vis-à-vis des langages des jeunes?
Bonne question, Paul. Merci de l'avoir posée. Qui veut réagir, Rachid Santaki?
Je pense que ça reste... Il y a effectivement, comme le disait monsieur, des nuances. En fait, tout simplement, déjà, quand on prend la région Île-de-France, et vous le disiez tout à l'heure, qu'on soit lyonnais ou marseillais, en fonction, on n'a pas le même argot, pas le même langage, c'est complètement différent, l'environnement. Et même en région Île-de-France, entre par exemple les gens du 93 et les gens du 91, les gens du 92, c'est pas les mêmes langages, c'est même dans ces territoires qui ne sont pas si éloignés, c'est complètement différent. Après,
vous donnez un exemple, Rachid Santaki,
Un exemple, par exemple, dans le 91, on a tendance à parler de bougzer, mon boug, mon gars, des choses comme ça que nous, on n'utilise pas dans le 93. Poteau ou complètement différent. D'accord. Donc, en fonction de votre langage, même en Île-de-France, on peut vous identifier, vous reconnaître. Maintenant, je suis pas forcément d'accord avec monsieur. Il n'y a pas de mépris parce qu'en fait, je dirais que cette langue française qui est transformée, elle vient du terrain. Elle vient du terrain et elle se diffuse. Et c'est vrai qu'une fois, souvent je citais cet exemple, donc un ami qui est un haut fonctionnaire et qui me parlait de ses enfants. En fait, on est en train de parler, puis à un moment, il y a un mot familier qui m'a échappé. Il m'a dit « Ah, mais c'est marrant, c'est ce que disent mes enfants ». Et ce que j'ai réalisé ce jour-là, ça fait quelques années déjà, c'est que les jeunes, en fait, parlent jeunes. C'est pas forcément une, y a pas forcément de mépris. C'est un langage qui passe par les réseaux sociaux, qui est populaire et qu'on s'approprie, effectivement, par lié de casque, d'univers. Et voilà, pour sa sonorité, on va s'amuser avec. Donc, on n'a pas forcément un langage familier dans un milieu huppé et dans un quartier qui peut être plus modeste, mais plutôt des sonorités qui passent et ça devient vraiment un langage de jeunes, en fait. Il sort. Après, la différence que je dis, c'est que ce soit en prison, que ce soit dans les stupes aussi, on a beaucoup de mots qui viennent du langage des stupes parce qu'il faut que ce soit codé. Ben les gens se l'approprient parce qu'aussi ils ont l'impression de s'encanailler. Donc il y a pas de différence. Il y a pas de, je pense pas qu'on fasse une. Il y a un milieu social même dans la langue.
En tout cas, les mots,
dans l'argot, en tout cas, dans l'argot.
Ce qu'il y avait de juste dans la remarque qui vient d'être faite, c'est la variété qui est partout. Et la variété, elle est aussi grande dans les jugements sur le langage que dans l'emploi du langage lui-même. C'est-à-dire que le mépris, il y en a, certes, mais il n'est pas du tout majoritaire. Il y a du mépris, il y a de l'admiration, il y a de l'étonnement, il y a de la rage, il y a de l'amour aussi. Tous les sentiments sont développés. Il y a des parents qui supportent mal que leurs enfants aient un langage qui leur échappe, mais il y a des parents qui en sont fiers parce qu'ils trouvent qu'ils ont un langage rigolo, qu'il y a des réactions très très nombreuses. Et quant à la nature de ce langage, au point de vue lexical, évidemment qu'il est alimenté à toutes les sources qu'ils ont à leur disposition. Si c'est un milieu où il y a par exemple pas mal de Roms, on va avoir des Natchaves et des Pouraves à tout instant. Si c'est un milieu où il y a beaucoup de gens d'origine maghrébine, eh ben c'est Sum qui a été employé tout à l'heure et qui est un mot arabe, ou qui fait, qui, à la différence de ce qui a été dit tout à l'heure par des jeunes, résiste bougrement et se dit depuis 20 ou 30 ans avec une très très grande fréquence. C'est devenu un mot français familier, général, qui est absolument nécessaire dans les dictionnaires.
C'est pour ça que vous nous dites que le français c'est une forme de créole, Alain Rey ?
J'avais dit, et ça m'a été reproché, que le français était un créole du latin. Et ça, j'y tiens, parce qu'effectivement, le créole est une langue qui est fabriquée avec des éléments variés, mais qui a son identité. Et les créoles, qu'ils soient guadeloupéens, réunionnais ou autres, sont des langues à part entière, qui se transmettent de père en fils de manière absolument identique à celle des autres langues. Et ce sont les dernières langues apparues sur la planète, à ma connaissance, au XVIIe siècle. Grâce à, si j'ose dire, je ne devrais pas dire grâce à la colonisation et à l'exploitation des Noirs d'Afrique, dans les Caraïbes et dans l'océan Indien. Bon, ce que je voulais, pour terminer, dire en passant, c'est que le rap dont il a été question tout à l'heure, rap et slam, sont des éléments qui non seulement sont cruciaux dans la divulgation de ces mots et dans le fait qu'ils sont répandus dans l'ensemble des banlieues, mais dans leur description. Moi, dans mon dictionnaire historique, il y a pas mal de mots, ils sont presque tous illustrés par des phrases de rap, parce que c'est là qu'on peut trouver la première date attestée. Alors, c'était probablement employé quelques années avant par oral, mais c'est le rappeur qui lui donne une existence officielle avec une valorisation sociale qui est comparable à celle du prix littéraire pour les Bourges. C'est comme ça que ça
voilà, se passe. C'est exactement, Rachid Santaki, je vous passe la parole tout de suite, ce que nous dit Juliette par mail. La culture hip-hop a beaucoup influencé les expressions populaires. Il n'y a qu'à voir comment l'acronyme OKLM, au calme, s'est imposé.
Oui,
notamment.
Mais complètement. Vous avez, c'est très juste. Le rap, il permet d'officialiser un mot. Hein. Et en fait, quand ça passe par les canaux de cette musique, le mot, en fait, on se l'approprie parce qu'on écoute les paroles et voilà. Et j'avais donné un exemple d'un groupe qui s'appelle PNL qui a amené des expressions ego ou d'autres mots, voilà, qui effectivement c'est le côté, c'est la
ego qui veut dire homme. En soninké, ça vient d'une langue africaine.
Ça, et après, il y a aussi ça, c'est le sens premier, mais après, il est déformé aussi. Igo, il y en a qui disent, c'est l'abréviation d'amigo. Donc, il y a plusieurs sens.
Il y a du calembour aussi, chaque fois qu'il y a des ressemblances. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cet usage du langage, c'est qu'il prend énormément, il fait énormément recours à la sonorité des mots. C'est-à-dire qu'il fait revivre cet amour de la langue que les enfants ont quand ils apprennent à parler et que les adultes finissent par perdre. Et pour lesquels les mots n'ont plus de son, n'ont plus de couleur, n'ont plus d'image. Et là, ils en ont à nouveau.
Voilà, alors on part au standard de France Inter, parce que Francis nous appelle de Sainte, et je pense parce que Francis est en train de se révolter en nous disant que ça ne concerne pas que les jeunes, ce dont on parle. Bonsoir Francis.
Du calme. Bonsoir à tout le monde, du calme. Non, je ne suis pas révolté. L'époque des bad boys, ça a toujours existé. Il n'y a qu'à regarder les films de Gabin dans les années 30, avec le béret relevé, le foulard autour du cou. Hein. Voilà. Donc, chaque musique a son époque, ou chaque époque a sa musique, chaque époque a son langage. Par contre, les mots pourrave, bougre et autres, ça date pas d'hier, bien sûr. Aujourd'hui, on dit trop cool. À mon époque, on disait c'est trop. Voilà, c'est les années 70. Donc, moi, je suis héritier du rock'n'roll, le rock, en fait, donc la révolte. Ça, heureusement qu'il y en a un peu. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que les gens de mon âge, plus de 50 ans, eh bien, on dit bonjour BJR, cordialement CDT, MDR, LOL. Bon, mais voilà, donc nous sommes devenus des quinquados. Voilà.
Merci beaucoup, Francis. C'était grave bien, votre intervention.
Oui, c'était grave bien. Oui,
ma vie à l'arrêt.
Non, parce que justement, c'est ce que je disais au début, le langage des jeunes, c'est les jeunes ne restent pas jeunes. Bon, donc, de toute façon, aller à un concert de jazz, les gens ont 70 ans.
En tout cas, c'est vrai que c'est un éternel recommencement, les mots. Moi j'ai découvert que Daron ou Daronne, il y en a trouvé dans Victor Hugo, c'est ça?
Mais bien avant.
Même avant, bon voilà.
Mais bien avant, non, ça c'est très étrange.
Et le verlan au Moyen-Âge.
Des mots d'ancien argot, y compris d'argot du XVIIe siècle, parce que avant, à part Villon, on ne sait pas grand-chose, il y a des mots d'argot qui renaissent, la thune pour l'argent aussi, qui est un mot très ancien, et le daron et la daronne, ils sont renés, et je pense pas que ce soit des profs à la Sorbonne qui soient allés dire aux jeunes, vous allez dire ça parce que c'est dans les textes anciens, c'est sûrement pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'ignore, je sais pas.
Je vous donne un exemple. Alors à Saint-Denis, on a un ami, Gion, avec Boubout, en fait. C'est un fan d'Audiard, donc Boubout aujourd'hui, je ne vais pas donner son âge, mais il est un peu plus âgé que moi, et il joue beaucoup, il était animateur, il entraîne les jeunes, et il parle, c'est un fan des films d'Audiard, donc il parle vraiment comme Audiard. Tu te remplis le buffet, les mannequins pour les policiers, etc. Ouais. Et il y a plein de jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, qui parlent comme Audiard. Donc du coup, il y a des canaux, des rencontres qui font que...
C'est un retour.
Voilà, et il y a l'oralité, la manière dont il parle, en fait, ça donne vraiment, envie. Donc il y a aussi des rencontres qui font qu'on revient effectivement à des mots qui existent, qui étaient là depuis un moment.
Un éternel recommencement. Mariette Darigrand.
Oui, ce qu'on voit très bien dans les enquêtes, disons, plus sociologiques, c'est combien le langage, il est oral aujourd'hui, très très oral, et il induit une créativité. Voilà. Les jeunes sont pas simplement des gens qui ont besoin de codes pour... Non, ils sont aussi des amoureux des mots, de la musique des mots. Ils sont obsédés par une chose, c'est jouer. Ils veulent s'amuser. Donc, ils s'amusent beaucoup avec tout ça. Et du coup, il y a des phénomènes complètement multigénérationnels. Alors, les tontons flingueurs et Audiard, aujourd'hui, sont vraiment au top. Donc, il y a du vintage, il y a beaucoup. Et de temps en temps, il y a aussi reprise d'un mot du 17e qu'un prof de français qu'on aime bien aura lancé dans la classe. Et puis, on le sent, on le voit pendant une semaine. Je crois vraiment que il y a une dimension codage pour pas être compris par les vieux. Bon, ça, d'accord. Mais il y a aussi un amour de toutes les langues. Il y a aussi beaucoup, on l'a évoqué tout à l'heure, l'anglais qui est imposé à l'école, mais dont ils savent bien qu'il faut le parler aujourd'hui et qui vient avec ses sigles, avec son franglais, etc.
Alors, vous parlez de l'anglais, Mariette, et vous avez raison, parce que on va quand même donner l'occasion à Alain Rey de protester contre ce qu'il appelle le californisme, Alain Rey.
Oui, non, je proteste pas contre lui, mais j'emploie ce mot californisme, que je n'ai pas mis dans mon dictionnaire, parce qu'il n'y a que moi qui l'emploie.
Ça viendra.
Pour être plus précis, si vous voulez, par rapport à l'origine des mots. Anglicisme ne convient plus. La Grande-Bretagne, qui a été le pays des mini-jupes et de tas de choses qui étaient inventives au point de vue du vocabulaire pour le français, a cessé d'être le premier fournisseur. Le premier fournisseur, c'est évidemment les États-Unis.
Il fait mots valises avec son Brexit et autres.
Oui, mais ça, le mot valise, c'est une invention de Lewis Carroll, qu'il appelait le portmanteau word. C'est en fait un truc de logicien et d'intellectuel qui est devenu très très populaire. Mais vous avez des bizarreries, le verlan existe au XVIIe siècle. On parlait des bonbours pour les Bourbons dans certaines classes de la société. C'est incroyable. Alors le verlan a végété pendant des siècles et puis il a explosé dans les années 50 et 60. Et il est en recul maintenant. En recul, mais il continue à produire des éléments. Et quant au Californie, dont je parlais tout à l'heure, il faut quand même remarquer que c'est un lieu du monde où on parle anglais, bien entendu, pour ça, c'est de l'anglais, c'est certain, d'où viennent à la fois les mots de la rigolade pour les jeunes, est plus ou moins codé. Le hip-hop, par exemple, le rap, le tag, tout ça vient de Californie. Et en même temps, c'est la vallée de la Silicon, pour parler français, dans laquelle vous avez tous les mots de l'informatique qui se déversent, non pas sur le français, mais sur toutes les langues du monde. Parce qu'on est, complètement, complètement centré sur nous-mêmes quand on parle de... Quand les puristes qui parlent de français abîmé par l'anglais, c'est pas le français qui est abîmé, c'est toutes les autres langues, en général. L'anglais joue un rôle fédérateur et à la fois un rôle de, très dangereux sur l'équilibre interne des langues. C'est pour ça que quand le langage des jeunes produit des arabismes, produit des ou les gastronomes produisent des japonismes en quantité industrielle, ou les pâtes alimentaires italiennes, on connaissait que les macaronis au 19e siècle, s'y sont ajoutés les spaghettis, à peu près des dizaines et des dizaines de mots, la mondialisation de la bouffe, c'est quelque chose qui a enrichi le vocabulaire français avec des origines du monde entier, ce qui fait que là, le monde anglo-saxon n'est plus le premier à nous faire parler, ce qui est un peu rassurant.
Alors on va repartir dans un instant au standard de France Inter.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Zachary est en ligne, bonsoir, vous nous appelez de Rennes.
Bonsoir, oui. Alors moi je suis lycéen, je suis en première, donc le langage des jeunes, bah, déjà c'est bizarre un peu de dire ça, ça fait balou quand on l'entend, ça nous fait rire, et justement c'est un langage qui dépend aussi de la façon dont on l'utilise.
Alors comment vous l'utilisez vous justement, dites-nous.
Bah plus, enfin naturellement, c'est-à-dire qu'on a des profs du coup qui essaient de se l'approprier, qui essaient de réutiliser des mots qu'ils entendent dans les couloirs rapidement, et on voit que bah un prof qui va l'utiliser avec un petit air ironique ou même en le prononçant mal, bah ça... Ça évite perdre en crédibilité et déclencher du rire plutôt de la moquerie. Et au contraire, ben, des profs qui vont réussir à se l'approprier, à le parler assez bien, ça va nous faire les écouter.
Alors, par exemple.
Les rendre plus crédibles, en fait.
Zachary, dites-nous un truc, on va voir si on comprend ce que vous nous dites. Une petite phrase, là, juste une petite devinette, un petit piège
test,
pour voir.
C'est le test, Zachary.
On a des experts, on va voir si ça marche.
Allez, c'est cool.
Charbonner, par exemple.
Charbonner, c'est trop facile. Charbonner, c'est quand tu vends des stupes et tu débites. Charbonner, ça veut dire travailler, forcer.
Ouais, voilà. Ouais.
C'est facile, hein, Zachary. Plus dur,
ouais,
quand même.
Dur. Ouais.
Bon, enfin, merci beaucoup, Zachary. Merci,
ouais, merci.
Merci d'avoir appelé. Alain Rey, moi, j'aimerais bien savoir à partir de quand un mot part dans le dictionnaire.
Écoutez, quand il est observé, pour l'observer, il faut qu'il soit produit dans certains canaux qui sont pas n'importe lesquels. C'est pas parce que je vais entendre quelque chose dans la rue, parce que j'ai des voisins maghrébins ou asiatiques, que je vais l'intégrer dans mon dictionnaire. Mais si ça passe à la radio, à la télévision, à la publicité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui alimente la fabrique du langage pour tout un chacun, à ce moment-là, à partir d'une certaine fréquence, et là on a quand même des indications qui sont pas du tout à prendre pour argent comptant, mais qui sont tout de même utiles pour orienter dans Google, où on sait, si dans Google, vous savez, 200 000 occurrences, c'est rien, hein. Quand il n'y a pas 5 millions d'occurrences, on n'est pas obligé de tenir le truc en considération.
Parce que justement, j'allais vous demander comment vous travaillez, vous, Alain Rey, pour découvrir ces nouveaux mots. Vous avez des relais sur le terrain, vous allez sur Internet, comment vous procédez?
Bien sûr, bien sûr. Internet est évidemment l'endroit où on pêche le plus. J'ai dit à plusieurs reprises que dans la dernière édition du Dictionnaire historique de la langue française, c'est la première fois qu'on se sert systématiquement du site de la grande bibliothèque Mitterrand, qui est Gallica. Gallica, c'est 400 000 textes où il y a tous les mots répertoriés avec la date de publication du bouquin. Vous imaginez, tous les annales de l'Institut Pasteur, les annales pour les mots scientifiques, des journaux du 19e siècle qui sont complètement perdus et que plus personne ne connaît et qui sont une espèce de réservoir incroyable des manières de dire spontanées et populaires dans ces époques-là. Donc, entre la fin du 18e siècle et 1940, avant et après, ça marche moins bien, c'est formidable pour préciser, non seulement pour préciser la date d'apparition des mots, et c'est valable pour les mots des jeunes et les mots d'argot aussi, et puis aussi pour voir comment les mots pénètrent le français. Parce qu'il y a tellement d'exemples, tellement d'occurrences, comme on dit, qu'on peut voir exactement le mécanisme dans lequel le mot s'approprie, et que finalement, un mot comme charbonner, qui est un mot très spécialisé au départ, vous avez le mot bolos, qui au départ est un mot utilisé par les dealers pour désigner le client.
Exactement.
Et c'est passé progressivement à un emploi général, et c'est à ce moment-là qui va passer dans les cours d'école pour dire crétin, nulard.
Voilà. Lexicographe est un métier d'avenir.
C'est un métier du passé, du présent et de l'avenir, c'est-à-dire que c'est un peu synonyme d'historien, oui.
On repart au standard. C'est Marceau qui nous appelle. Petit souci sur la ligne, me signale la régie, mais enfin je pense que ça devrait pouvoir passer. Il nous appelle de Boulogne, c'est pourtant pas le bout du monde. Bonsoir Marceau.
Bonsoir.
Oh, une petite voix.
Moi je suis en 6e et... Je connais des adultes autour de moi qui utilisent ce langage, et ma question est, est-ce que les adultes maintenant utilisent le langage des jeunes ?
Est-ce qu'on vous copie dessus ? Je crois que oui. On essaye, mais on ne se débrouille pas toujours très bien, Mariette Darrigrand.
Absolument. Qui dit langage jeune, comme l'a dit tout à l'heure le jeune auditeur, dit jeunisme. C'est-à-dire que ça va ensemble. C'est un concept, le jeunisme, qui est récent, je crois, l'arrêt. La société regarde beaucoup les plus jeunes. Elle se tourne plutôt vers les plus jeunes en essayant de les imiter à beaucoup d'égards. Ça a été critiqué par certains moralistes.
Oui, un grand merci d'avoir appelé Marceau, en attendant.
Marceau était pas tant, parce que il y a des petits Marceaux très très jeunes qui ont 1 an et demi, 2 ans, qui commencent à parler, et vous remarquerez que dans les familles, les gens se jettent sur les mots des enfants quand ils sont déformés. Moi, il paraît que quand j'étais petit, je pouvais pas dire confiture, je disais la conquito. Et mes parents adoraient ça, et ils ont dit ça pendant longtemps. C'est donc une copie conforme d'un truc qui était simplement une difficulté de phonétisation, et qui est devenu un mot familier pendant quelques temps avant de disparaître, mais moi je m'en souviens.
Rachid Santaki, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, parce que vous avez l'habitude de transformer des fables de La Fontaine.
Oui.
On peut en avoir un petit extrait.
Oui, je me suis amusé. L'idée c'était de reprendre, en fait, j'ai un véritable amour effectivement pour les classiques, mais l'intérêt aussi par rapport, on le voit, nos quelques jeunes auditeurs, c'est de resituer aujourd'hui des classiques. Donc je vous ai ramené j'ai revisité la cigale et la fourmi,
oui,
que j'ai appelé la michetonneuse et la fourmi.
Allez-y.
La michetonneuse, ayant pigeonné tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la hesse fut venue. Pas un seul petit raclot, bicraveur ou footballeur, elle alla crier la dalle chez la fourmi Sapinko, la priant de lui chromer quelques billets violets pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle de télé-réalité et de soirée. « Je vous rendrai, lui dit-elle, après la saison des pigeons, foi de bimbo, intérêt et resto. La fourmi un peu crevarde, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous à la chicha, dit-elle à cette gratteuse, nuit et jour à tout venant. Je fumais goût double pomme, ne vous déplaise. Vous fumiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, twerkez maintenant.
Bravo, Rachid Santaki.
Ah, c'est magnifique.
Ah, ouais.
Ça serait passionnant de comparer cette version aux versions en argotique, alors de l'argot classique.
Il y en a déjà eu, oui.
Qui ont été faites des fables de La Fontaine. Et au passage, c'est un hommage à La Fontaine, parce que ça veut dire que le rythme et la poésie de ces fables, et la manière dont elles sont conçues au point de vue verbal, les rend capables de tout. On peut les transformer, on peut les modifier, et je trouve que c'est tout à fait épatant.
C'est jamais démodé, La Fontaine.
Alors, il y a évidemment le problème des passages en français classique qui résistent à tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un équivalent. Par exemple, c'est là son moindre défaut, ça reste. Hein, parce que là, je vois pas ce qu'on pourrait mettre à la place.
C'est compliqué.
Ça serait très compliqué. Mais ça veut dire que il y a une espèce de condensation des capacités du langage dans certaines réussites verbales, et que là, bon, que ce soit les tragédies de Racine, ou qui serait aussi un beau sujet pour faire ça, ou les poèmes de Baudelaire, vous avez des choses qui sont tellement résistantes en tant qu'œuvre d'art, qu'on peut leur faire des quantités de choses et les faire valser, danser, bouger, comme on vient
l'été.
D'entendre. Et c'est... En même temps, c'est beaucoup plus drôle parce que la structure générale qui est très classique et qui est magnifique donne à ces mots-là une espèce d'existence d'autorité, un petit peu, comme disaient les Espagnols quand ils donnaient des citations littéraires dans leur dictionnaire. C'est la même chose.
On repart au standard de France Inter. C'est Gaëlle, c'est ça, qui nous appelle ? Bonsoir.
Bonsoir, non, c'est Yaël, en fait.
Yaël, voilà, j'ai un petit problème, effectivement, voilà. sur mon ordinateur. Merci, en tout cas, de nous appeler.
Oui, merci à vous. Je voulais vous demander, en fait, en quoi il y avait une dimension drôle dans le langage. Surtout le langage d'argot et tout ce genre de choses, et en quoi c'était toujours repris, parodie en fait. Par exemple, Bolos, qui est repris, mais un peu avec cette parodie-là.
En quoi c'est drôle ? Question. Un arrêt.
C'est souvent la sonorité des mots. Bolos n'est pas tellement drôle en soi comme sonorité. Mais je sais pas, les deux, il faudrait faire une analyse phonétique pour savoir ce qui lui donne une... Mais il y a des mots du langage tout à fait courant, tout à fait classique, et pas du tout le langage des jeunes, qui sont drôles en eux-mêmes. Hurluberlu, par exemple, qui est dans Rabelais, ça, je trouve ça épatant, quoi. C'est, même si on sait pas exactement l'analyser, et vous avez des mots comme ça, qui sont comiques en eux-mêmes, parce qu'il y a répétition, il y a allitération, et là, on joue beaucoup de cela pour donner au langage sa dimension ludique, pas forcément rigolote. Hein, c'est l'idée de ludisme, je trouve, qui est importante. C'est-à-dire qu'on joue avec.
Mariette Darrigrand.
Oui, on joue avec. Mais il y a aussi une dimension dont on n'a pas tellement parlé, c'est le jeu d'acteur. Parce que les mots, ils font des effets drôles, comiques, parce qu'ils sont portés aussi par des corps. Et donc, je pense, par exemple, à ce qui s'est passé quand Omar Sy a émergé comme ça. Beaucoup de gens ont été très étonnés, mais il y avait cette fameuse chronique, leur petit SAV avec... Fred et Omar, ouais. Et ils avaient des formules qui étaient complètement reprises ensuite, ouais. Et vraiment des trucs extrêmement drôles, des accents. C'est un peu la même chose avec l'accent belge aujourd'hui, de François Damiens. Bon, les gamins ont l'art et la manière de parodier les parodieurs aujourd'hui.
Il y a eu le Halo de Nabila, qui a eu un succès qui n'était pas tellement mérité pour le contenu.
Oui, mais ça scande la vie, et ensuite on la trouve dans la vie quotidienne, voilà. Et entre eux.
Vous avez raison, c'est-à-dire que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le mot retrouve une vitalité et une humanité totale, c'est-à-dire qu'il a une couleur, une odeur, il est agressif, il est chiant, il est gentil, il est méchant, ça devient quelque chose avec lequel on peut jouer comme on joue avec un copain ou un adversaire d'ailleurs.
Rachid sur le mot bolos, en fait, bolos, à la base, toxicomane, quand on connaît l'environnement d'un toxicomane, ce qu'il est prêt à faire, c'est vrai que c'est pas un mot drôle, mais après, c'est que les jeunes se le sont appropriés un peu, c'est teubé. Genre le mot teubé, c'est devenu un peu le mot teubé, et il est de l'entendre, en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a l'effet sonore de bolos, et puis qui est devenu quelque chose un peu, on est passé du dramatique à du drôle décalé, et je pense qu'il y a aussi la part beaucoup d'ados qui se l'ont approprié complètement.
Teubé dit autre chose que bête, hein. C'est évident, ça apporte quelque chose.
On repart au standard de France Inter, c'est Mathieu qui est en ligne. Bonsoir Mathieu et bienvenue.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous avoir appelés.
Merci à vous d'avoir pris mon appel. Alors moi, je vous appelais par rapport au langage que vous utilisiez, vous parliez dans le rap, vous parliez de plus une façon de refaire vivre le langage comme à l'apprentissage. Mais moi, je suis un grand consommateur de rap français et je trouve plus que le choix du langage est très important dans la manière de décrire la réalité que l'on veut donner à ce moment-là. Que c'est pas forcément une façon de redécouvrir, mais plus des mots très précis à utiliser pour décrire comme il le faut, la réalité de ces gens.
Merci beaucoup Mathieu pour cet appel, pour ces remarques, Rachid Santaki.
Oui, en fait, c'est complètement vrai. En fait, le rap, il permet à la fois par sa langue de poser un contexte. Ça donne une intensité. En fait, les mots là donnent effectivement, ils donnent une dimension qui peut être effectivement de l'ordre du réalisme. Il y a effectivement ce poids en fait dans les mots, une justesse. Et c'est pour ça que sur le passage tout à l'heure, ce que vous disiez, que le rap aussi parfois permet de d'officialiser des mots, c'est parce qu'il a cette justesse. Donc effectivement, le rap, il a aussi cette force de poser grâce aux mots un environnement, une intensité. Enfin, oui, je suis complètement d'accord avec monsieur.
Oui, et puis il donne au mot un contexte, hein, parce que c'est pas un mot tout seul dans le rap qui va être mis en valeur. C'est un ensemble de mots et c'est une intention qui peut être agressive, qui peut être au contraire lyrique. Hein. Il y a des raps qui sont vraiment poétiques. Les slams encore plus, parce que c'est moins orienté vers l'intervention directe sur l'autre, mais ce sont des rhétoriques. S'il y avait un théoricien de la rhétorique pour s'occuper du rap comme Quintilien s'est occupé de la poésie latine, je vous jure qu'il y aurait beaucoup à dire.
Alors, cette émission touche à sa fin. Le mot de la fin, hein, Alain Rey, pour tous les trois. Le mot de la fin, Mariette Darigrand, peut-être vous commencez ? Une petite conclusion.
Vous commencez la fin.
Voilà. Non, j'allais dire, c'est un mot que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est le mot citation, parce qu'il y a dans le rap des citations de textes déposés, de textes écrits, et j'aime beaucoup ce mélange entre l'oral et l'écrit. Alors, le mot citation, je vais faire une citation de Roland Barthes, très connu. Il aimait ce mot parce que c'est le citar en espagnol, hein, c'est le
ça,
fait.
C'est un appel.
C'est un appel, voilà, et l'appel de la tauromachie. Là, on fait le chiffon rouge devant le taureau.
Merci beaucoup, Maria Darigrand, Alain Rey. Le mot de la fin, c'est un exercice que vous savez pratiquer.
Moi, je suis trop dans les mots pour pouvoir choisir un seul mot quand on me demande quel est mon mot préféré. J'avais eu le malheur de dire une fois à Pivot que c'était luciférienne au féminin, pour mettre du féminin dans quelque chose qui est à la fois très positif, le porteur de lumière, Lucifer, qui a été un dieu avant de devenir un diable parce qu'il est dégringolé. Donc, c'est cette espèce de contradiction interne, et puis ce rapport avec la lumière, la lucidité, hein, et un hommage au latin. Voilà.
Voilà, et on renvoie évidemment au dictionnaire historique de la langue française, deux gros pavés. Mariette Darigrand, j'ai pas cité votre prochain ouvrage, ce sera Je te kiffe, je t'aime chez Gallimard, ce sera en février prochain. Rachid Santaki, votre dernier ouvrage, c'est La légende du 9-3, c'est chez Ombre Noire, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Un mot de la dictée des cités, rapidement
oui.
Peut-être
pour prochaine dictée des cités le 26 novembre. Là, on aura on part sur un classique qui va être revisité par des collégiens. On sera à Paris 18e le 26 novembre, samedi après-midi. Je vous invite nombreux à venir vous tester sur un classique transformé avec du verlan, de l'argot, etc.
Voilà, pour rappeler quand même, c'est très important que le français, c'est ce qui nous unit. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Alain Rey, Mariette Darigrand, Rachid Santaki. Vous pourrez retrouver toutes les références de tous ces ouvrages sur le site de l'émission. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer Une semaine en France et Le téléphone sonne. Merci à Marie-Claude Malartic, Octavie Morel, Jérémy Younes, à la réalisation ce soir Hélène Biziot, Anne-Cécile Perrin, à la technique Patrick Henry, Henri Bérec, Sacha Tropp et Hélène Langlois, à la programmation musicale Djoubaka. Merci aussi aux standardistes de l'émission Adrien Vallot et Francesca Antonini.